Ce dont je vais parler ici, ce que je vais essayer de présenter, c'est quelques éléments contrastifs de la phonologie du français. Alors vous allez voir, au fur et à mesure que je fais la présentation, il va y avoir des éléments de comparaison avec d'autres langues. Essentiellement les langues pour lesquelles je suis pertinent, c'est-à-dire moi je suis phonologue, je travaille au CNRS et je travaille essentiellement sur les langues afro-asiatiques. Et donc au fur et à mesure de l'exposé, vous allez avoir des éléments de comparaison avec d'autres langues qui vont être utiles à comprendre certains phénomènes phonologiques. Mais avant cela, et je pense qu'il est utile de présenter de manière un peu brève, pour certains ça va être quelque chose que vous connaissez déjà, bref, de ce que c'est que la phonologie, en quoi la phonologie est intéressante, en quoi il y a besoin d'une grammaire de phonologie. Généralement, quand on parle de grammaire, on enseigne la grammaire de la phrase, on enseigne des choses de ce type-là, mais il y a une phonologie avec des règles, et pour les locuteurs non natifs, il y a besoin de ces règles-là explicites pour pouvoir comprendre comment fonctionne la phonologie du français. Et tout cela, toujours en lien avec leur phonologie native, qui, elle, ils ont acquis de manière naturelle, mais qui influence l'apprentissage d'autres langues. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est que la phonologie? Alors, de manière simple, la phonologie, c'est l'étude des sons du point de vue de leur fonction. Quand on parle de leur fonction, c'est qu'on a un phonologue qui s'assoit, qui regarde les sons dans une langue et qui dit est-ce que ces sons-là sont pertinents dans cette langue-là ou pas. D'accord? Et puis, à cela se pose la phonétique. La phonétique, c'est juste regarder les sons indépendamment de la langue et de dire quelles sont leurs propriétés physiques, acoustiques, articulatoires. Donc, quand on parle phonologie, on parle de la phonologie d'une langue. Et la phonologie du français, par exemple, on va regarder quels sont les sons qui sont pertinents dans cette langue-là. Très bien. Et les sons pertinents, en quelque sorte, ce qu'on appelle phonèmes, ce sont des unités, des catégories abstraites, des catégories mentales, en lien avec ce qu'on peut appeler la conscience phonologique. Chaque locuteur natif d'une langue a une conscience phonologique. Il sait en quoi, quel est le son qui est pertinent dans sa langue et quel est le son qui n'est pas pertinent. D'accord ? Et vous allez voir quelques exemples qui reviennent souvent. Pour donner un exemple juste comme ça, quand on prononce râteau et travail, il s'agit de deux R qui sont complètement différents d'un point de vue phonétique. Un qui est voisé dans râteau et l'autre qui est dévoisé. C'est-à-dire, dans travail, on prononce un R et non pas un R. Mais d'un point de vue mental, abstrait, un locuteur natif du français, il voit qu'un R, un seul son qui est pertinent dans sa langue. D'accord ? Dans d'autres langues, ces deux sons-là peuvent être pertinents. Très bien. Et en cela, par exemple, le test des paires minimales sert, dans une langue, à définir qu'est-ce qu'un son. Est-ce qu'il est pertinent ou pas pertinent? Et quand on fait des paires minimales dans une langue, prenons le cas du français par exemple, quand on fait une paire minimale de type pas et bas, ça nous permet de dire que peu et beu sont des phonèmes du français. D'accord? Et on fait une série de paires minimales de ce type-là. On peut aussi faire d'autres tests tels que la distribution, l'analyse distributionnelle, c'est-à-dire regardez tous les contextes dans lesquels les sons apparaissent. Plus un son a une large distribution, plus il a un phonème. Celui qui a une distribution qui est très restreinte, c'est-à-dire qu'il n'apparaît que dans un seul contexte, et bien à ce moment-là, on dit que ce n'est pas un phonème, il n'est pas distinctif dans cette langue-là. Le cas de travail, quand on prononce « re » dans travail, il n'est pas distinctif. Et on regarde sa position. Donc on fait les paires minimales et on décide, à partir de là, quels sont les phonèmes du français. Et de la même façon, on détermine quels sont leurs allophones. Rien. Et les allophones, pour revenir sur la conscience phonologique, ça ne fait pas partie de la conscience phonologique d'un locuteur natif du français. Un allophone qui est celui dont travail, le « re » dans travail, ne fait pas partie de la conscience phonologique de ce locuteur-là. Ce n'est pas un phonème, c'est un allophone. Ce type de travail, on le fait, et puis après, on essaie de faire une grammaire de la phonologie, un ensemble de règles qui déterminent les structures phonologiques du français. On regarde les segments, on regarde les sons, on regarde quels sont les phonèmes, quels sont les allophones, on regarde aussi les syllabes, quel type de syllabe on a en français, qu'est-ce qui est permis dans une syllabe ou pas, Et on regarde aussi les contraintes, ce qu'on appelle les contraintes phonotactiques en phonologie, c'est le fait qu'on puisse autoriser certaines séquences, par exemple, de consonnes. En français, si vous regardez, en français, on a les mots qui commencent par « te re, be, re », mais aucun qui commence par « re, be, re, te », des choses de ce type-là. Ce sont ceux-là les contraintes phonotactiques. Le fait que tel son est autorisé à apparaître dans telle position syllabique, le fait qu'en français oral, par exemple, on peut omettre la prononciation du schwa, ce qu'on appelle le schwa, le e muet. Et dans quelle position on peut l'omettre, dans quelle position il est absolument nécessaire de le garder. Et ce type de grammaire avec des règles explicites sert à enseigner le français à des locuteurs non natifs, parce qu'ils ont une phonologie native, la phonologie de leur propre langue native, et ils sont confrontés à une langue étrangère. Ils ont besoin de règles explicites pour comprendre comment fonctionne la phonologie de cette langue-là. Alors, rapidement, un mot sur le système consonantique et vocalique du français. Vous avez ici le système consonantique. Le système consonantique, c'est qu'une fois qu'on a fait les paires minimales, l'analyse distributionnelle et des choses de ce type-là, on définit quelles sont les consonnes qui sont phonémiques en français. Et vous avez ici toutes les consonnes qui sont phonémiques. Celles qui sont entre parenthèses, ce sont les allophones. D'accord ? On en a, globalement, je n'ai pas compté, mais je pense qu'il y en a 20 ou 21 si on compte le ng qui est emprunté essentiellement en français. Vous l'avez ici, ng, c'est marqué en caractère API phonétique, caractère phonétique. Voilà. Donc celui-là, par exemple, ng, on l'a dans les emprunts au français, par exemple. D'accord ? Parking. D'accord ? À l'anglais. Très bien. Les autres. On est globalement d'accord pour le dire, le fait que ce sont des phonèmes du français. Et si vous avez la variante dont j'ai parlé tout à l'heure, le re, d'accord, opposé à re. Et si ce qu'on a, ce sont les variantes de ces deux consonnes, que et gue, celles-là, on les retrouve, on dit que ce que et gue sont palatalisés quand ils sont à côté d'une voyelle palatale, un i, par exemple. D'accord ? Et ainsi de suite, le reste, je pense qu'à mon avis, il n'y a pas à détailler. Ici, je, ce sont les, ici, ce sont les semi-consonnes, we, et puis ye. D'accord ? Et c'est classé par lieu d'articulation, l'endroit où c'est prononcé, et le mode. Le fait que ce soit une consonne occlusive, une consonne fricative, et ainsi de suite. Alors, si on regarde rapidement et qu'on essaye de faire quelques généralisations sur ce système consonantique du français, vous voyez qu'on n'a pas de consonne gutturale. Qu'est-ce que c'est qu'une consonne gutturale ? C'est une consonne d'arrière. La consonne la plus arrière dans le système du français, c'est le re, à l'extrémité là-bas. Il n'y a pas plus arrière en français. Mais vous avez des langues dans lesquelles il y a des consonnes encore plus arrière. Le cas de l'arabe, par exemple, on a des he, he, he. Ce sont les consonnes gutturales, on les appelle les consonnes gutturales. Très bien. Et puis, vous n'avez pas de géminée. On n'a pas de géminée en français. D'accord ? Qu'est-ce que c'est qu'une géminée ? C'est une consonne tendue. On l'a orthographiquement en français, mais généralement en oral, on ne les prononce pas. Je vous donne un exemple. Logique, illogique. Il y en a qui peuvent, pour des raisons expressives ou stylistiques, prononcer illogique. Vous avez d'autres cas, par exemple, je l'ai noté ici, le verbe courir, ne courant, le futur, ne courant. Alors pour certains, peut-être, dans leur phonologie, il y a une géminée ici. Ils diront, ne courant et ne courrions. Tu es d'accord, Anne ? D'accord, très bien. Logique et logique, mature et mature, généralement, on n'a pas de géminée. Mais il y a des langues pour lesquelles ce sont des phonèmes. Vous avez là la consonne simple, et la consonne géminée. Je reviens sur le cas de l'arabe, c'est un cas pertinent dans ce cas-là. Le berbère aussi est une langue où il y a des consonnes géminées. Donc vous pouvez avoir, par exemple, les locuteurs natifs de l'arabe ou du berbère qui, exposés au français, d'un point de vue orthographique, ils voient qu'il y a une double consonne, ils ont tendance à la prononcer comme une géminée. Après, Il y a aussi, pour le système vocalique, vous avez ici, globalement, on a 16 voyelles, 16 phonèmes vocaliques en français, 12 orales et 4 nasales. Quelles sont les voyelles orales? Les voyelles orales, je vais plutôt dire quelles sont les voyelles nasales, comme ça, vous voyez après ce que c'est qu'oral. Les voyelles nasales, ce sont les voyelles avec lesquelles qui sont prononcées avec l'air qui s'écoule par le nez, voyelles nasales. Donc vous avez un, en et on. D'accord? Toutes les autres sont des voyelles orales. Ok. Vous voyez très bien le problème qui peut se poser pour des locuteurs qui n'ont pas un système vocalique aussi fourni que le français. Okay. Les langues où il n'y a pas de voyelle nasale, ça pose un problème. Rajoutez à cela le fait que les voyelles nasales du français sont issues historiquement d'une suite de voyelles orales plus consonnes nasales. Et vous le voyez très bien, vous faites un test de morphologie, vous voyez que fin, vous faites la forme féminine, vous avez fine. Vous voyez que le 1, il vient d'une suite IN. Et les contextes de liaison fait exactement, restituent la nature historique ou étymologique de ces voyelles nasales. Alors, vous voyez ces voyelles nasales, ajoutez à cela le fait qu'en français, on a 2 degrés pour les voyelles, ce qu'on appelle les voyelles moyennes. Ceux-là, ce sont les voyelles hautes. I, U et U vient après les voyelles moyennes. On a les voyelles moyennes qu'on appelle mi-fermées et E, le schwa, qui est plutôt central, et O, fermé. Et à côté de cela, on a le E ouvert, le E ouvert, et puis le O ouvert. Prenez le cas de l'espagnol, il n'y a pas cette distinction de 2 degrés. En espagnol, il y a E et O. D'accord ? En français, ça existe encore, quoique en français oral, ça a tendance à être neutralisé. Qu'est-ce que c'est que neutralisé ? C'est qu'on ne fait plus la distinction, en tout cas à l'oral. D'accord. Mais il y a des contextes dans lesquels c'est tout à fait prédictible. On voit comment ça fonctionne. Ce qu'on appelle la loi de position. Position par rapport à la position syllabique. Généralement, on dit qu'une syllabe, une voyelle moyenne ouverte, se situe dans une syllabe fermée. Par exemple, dans folle. D'accord ? Ça, c'est un O ouvert, folle. D'accord ? Si vous ajoutez à cela une voyelle qui fait que la syllabe devient ouverte, vous avez folie. Peut-être que moi, comme étant non-locuteur natif du français, vous ne voyez pas la distinction, mais je demanderai peut-être à un locuteur natif, vous voyez que c'est bien d'accord, ok, mais en tout cas dans le français méridional, c'est, on l'entend encore, d'accord, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on a tendance à les neutraliser. Vous avez gueule, gueuler, hein? Vous avez bête, bêtise, d'accord, bêtise. Et si c'est un « et » qui est fermé, et dans « bête », un « et » qui est ouvert, qu'est-ce qui détermine leur distribution, les contextes dans lesquels ils apparaissent? C'est la nature de la syllabe, syllabe ouverte, syllabe fermée. Si maintenant je reviens un peu sur les consonnes, tout à l'heure je disais qu'on avait 21 consonnes en français et qu'on n'avait pas des consonnes d'arrière. Parmi ces consonnes d'arrière qu'on n'a pas, ou en tout cas qui sont problématiques pour le cas du français, c'est ce qu'on appelle les consonnes rhotiques, le R. Phonétiquement, le R du français, c'est une uvulaire. Français standard, le R. D'accord ? D'accord. Il y a un seul R. D'accord, très bien. Maintenant, si vous comparez à l'arabe et au berbère, ces consonnes qu'on appelle rhotiques, quand je dis rhotique, pensez à un R. Ces consonnes rhotiques, elles sont phonémiques en berbère, en arabe, phonémiques quand c'est une coronale, R, phonémique quand c'est une uvulaire, re, comme le re du français standard. En français, on a, historiquement, en tout cas, tout le monde serait d'accord sur le fait de dire qu'il y a trois variantes du R en français. Il y a le R standard, uvulaire, fricatif, standard. Il y a le R grassaillé, parisien, un peu, pensez, comment s'appelle ce film-là, l'Hôtel du Nord, c'est ça ? Hôtel du Nord, oui, atmosphère. Je ne sais pas le faire, le R parisien, mais en tout cas, vous voyez un peu. Et puis le R roulé qui est coronal, apical, Paris, d'accord ? Donc, re en arabe et en berbère sont phonémiques. Ils servent à distinguer des mots, pas en français. Vous pouvez mettre l'une ou l'autre, ça ne change pas de sens. Très bien. Et puis, à côté, vous avez aussi le H en français qui pose problème. Il est là, il est orthographique, mais on distingue deux types de H. Le H muet, le H aspiré. Qu'est-ce que c'est que le H muet ? Le H muet, c'est celui qui n'a aucune incidence phonologique sur son environnement. Le fait, par exemple, que le H muet va autoriser qu'on fasse la liaison. Par exemple, ou les lésions. Ici, dans ce cas-là, c'est l'herbe. Le herbe donne l'herbe. Donc le H, c'est comme si phonologiquement il n'était pas là, il autorise à ce que le E de l'article le s'efface. De la même façon, dans le cas de liaison, il va faire la liaison. Les herbes. D'accord ? Le H aspiré, lui, il est là, orthographiquement, on ne le prononce pas, mais phonologiquement aussi. Parce qu'on ne dit pas l'arpe, on dit l'art. Donc, on voit le fait que il y a une fonction phonologique de ce type de H en français. Et vous voyez quel problème phonologique ça va poser. D'accord ? Dans une langue où le H est phonémique, le locuteur qui sera exposé au français, il va gérer ce type de problème. D'accord ? Regardez aussi les emprunts que fait le français à l'anglais. Regardez hold up. Hold up, d'accord? Hold up, hold up. Hamburger, hamburger. Le H est complètement éliminé. D'accord? C'est ça?
C'est ça?
Le hamburger. Le hamburger, c'est ça. Mais du coup, on voit encore sa fonction phonologique. Très bien. Combien il reste? 5 minutes? Très bien, ok. Sur la liaison, je dis aussi la liaison, c'est un problème phonologique qui est intéressant à regarder parce qu'il va poser un certain nombre de problèmes pour les apprenants du français. Il y a ici des exemples, il y a un décalage qui a été fait, mais ce que j'ai voulu montrer avec les exemples qui sont ici, c'est que le cas de la liaison, c'est intéressant parce qu'en français, pour comprendre ou apprendre la liaison, il faut d'abord comprendre les contextes de liaison, parce que la liaison n'est pas faite dans tous les contextes. Hein? Il y a un contexte qui est obligatoire généralement, c'est l'article plus le nom. Celui-là, de manière naturelle, il est fait pour un locuteur du français. D'accord? Mais entre un verbe et la préposition qui arrive derrière, il n'y a pas « j'ai ». On ne dit pas « j'ai nous sommes allés au marché », par exemple, je ne sais pas. Ou « nous sommes allés au marché », il n'y a pas de liaison qui se suive. Ce qui serait intéressant pour les locuteurs natifs du français, c'est de voir qu'il y a une évolution même dans la liaison. Prenez le cas de la monnaie qu'on utilise maintenant. Le cas de la monnaie qu'on utilise maintenant, quand dans les années 2000, il était question de prononcer le nom de cette monnaie-là, il y avait, en gros, on avait deux types de populations, ceux qui font la liaison et ceux qui ne font pas la liaison, 2 euros et 2 euros. Alors maintenant, je pense que ça a tendance à être harmonisé vers 2 euros. Tout le monde fait 2 euros, n'est-ce pas? Bon, ok. Vous avez aussi All Black, les All Black, les All Black. Il y en a qui peuvent dire les All Black. All Black, c'est le nom de l'équipe de rugby. De Nouvelle-Zélande. Très bien. Pourquoi j'ai mis ça? J'ai mis ça pour le cas d'érotique. Pour le cas d'érotique, pour voir, par exemple, si on regarde les emprunts que l'arabe a fait au français. Hein ? Je vous parlais tout à l'heure du fait que l'arabe a des phonèmes, a deux phonèmes, re et re. Mais le re du français n'est pas adapté comme un re en arabe. Alors que l'arabe a bien re. Il est toujours adapté comme re. Ça vous montre que la nature phonologique du re du français, c'est pas re, c'est pas univulaire, c'est autre chose. D'accord ? Vous avez par exemple bureau qui donne biro. C'est pas biro, c'est biro. D'accord ? Et au passage, vous avez vu que le U devient un I. Parce qu'il n'y a pas de U en arabe. Train. Train avec un re. Train devient train. Et ainsi de suite. Vous avez un certain. D'autres exemples de ce type-là. Et l'inverse, le français qui a emprunté à l'arabe, il a encore géré d'une façon différente ses consonnes rhotiques. Alors vous avez Maghreb. Pour information, ça se prononce en arabe Maghreb. Re, re. Le re est devenu ge. Et le re, c'est re. Gazelle, un ge. C'est, en arabe, c'est un re. Razal devient gazelle. Khalif devient calife avec un que. Vous voyez qu'en réalité, même si en français, on a le re qu'on prononce, le re uvulaire, eh bien, il n'est pas du tout utilisé pour adapter les re qui viennent de l'arabe. Je vais peut-être m'arrêter ici. Je te laisse...
Non, moi, c'est bon.
C'est bon.
Arrêter, il est déjà 35. Vous dire que sur la phonologie, il y a toujours, hein, dans les fiches français ailleurs, des activités proposées en direction de ceux qui pratiquent, hein, en atelier ou en UPE2A. Donc vous y référez, je ne sais pas, le retard maintenant, on a rattrapé le retard. C'est pas grave, c'est le principal. Mohamed, tu as pu dire l'essentiel de ce que tu voulais dire.
Ouais,
on vous remercie vraiment beaucoup. On remercie beaucoup Mohamed aussi.